Nous avons entamé l'étude du chapitre 8, qui est sans doute un des plus beaux chapitres de toute la Bible. Si vous voulez mémoriser un passage biblique un peu long, je vous invite à vous attaquer à ce chapitre 8. Il y a plein de vérités qui sont révélées. Il y a une joie qui est sous-jacente ou qui danse. C'est dans le cadre de l'épître de Paul aux Romains. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais ça vous auriez pu le deviner. Ça suit le chapitre 7. Je dis ça sous forme de boutade, et en même temps, on sait que le chapitre 7, c'était le chapitre où Paul parlait de façon très honnête en disant que il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait, le bien qu'il voulait faire, il n'arrivait pas à le faire. Le mal qu'il voulait ne pas faire, il le faisait, malgré lui, ou en dépit de son désir. Il y avait cette loi du péché en lui, qui, la loi du péché et de la mort, qui le faisait retomber vers loin de Dieu. Et c'est remarquable parce que ce passage, en fait, c'est souvent, ce chapitre 7, c'est souvent là où beaucoup de chrétiens restent. Ils veulent faire le bien, ne pas faire le mal, et pourtant, ils se trouvent un peu à errer. Et à vivre dans cette situation de désespoir constant. On n'arrive jamais à faire ce qu'on veut, on n'a pas l'impression de faire des progrès. Et on a dit qu'en fait, le chapitre 8, c'est une réponse à ce cri de Paul qui disait « Malheureux que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort ?» Et il nous dit « J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et cette vie que Jésus veut nous donner, c'est une vie animée par l'Esprit-Saint. Jusqu'à présent, dans la lettre de Paul aux Romains, dans cette épître, le Saint-Esprit n'avait été mentionné que deux fois. Une fois en passant au tout début, au chapitre 1, verset 4, où il était décrit comme l'Esprit-Saint, qui était l'Esprit de sainteté. Et puis au chapitre 5, il y avait une mention expliquant que l'amour de Dieu, cet amour sacrificiel, était déposé dans nos cœurs, était déversé par l'Esprit-Saint. Et c'était tout. Là, dans le chapitre 8, l'Esprit-Saint va être mentionné pas deux fois, pas quatre fois, pas huit fois, pas dix fois, il va être mentionné 22 fois. Et la clé de la vie chrétienne, c'est l'Esprit-Saint. Je sais que pour certains, si vous venez de milieux, on dit chrétiens plutôt conservateurs, l'Esprit-Saint, il fait un peu peur, parce qu'on ne sait pas où il va nous mener. Il y a certains groupes qui sont ce qu'on appelle charismatiques, voire hyper-charismatiques, qui poussent l'enseignement sur une concentration sur l'Esprit-Saint, avec les dons de l'Esprit, et ça, pour certains, c'est un peu « Oh, on a parlé d'Esprit-Saint, attention !» Mais c'est dommage, parce que l'enseignement de la Bible est que l'Esprit-Saint est vital, l'Esprit-Saint est capital pour notre vie de chrétien, et c'est la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, qui nous libère de la loi du péché et de la mort. On avait évoqué ces deux principes qui s'opposent. D'un côté, l'Esprit Saint qui veut nous faire nous envoler vers Dieu, et la loi du péché et de la mort qui nous entraîne vers le bas. On a pris l'analogie de l'aéronautique où il y a la gravité et la loi de la gravité qui s'oppose à la loi de portance aérodynamique. Mais on sait que l'aviation nous montre que la gravité peut être vaincue par une loi plus forte. Et la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, elle est plus forte que la loi du péché et de la mort. Il nous explique donc, et on a commencé à en parler les deux dernières semaines, que nous avons cette position en Christ, dans le Saint-Esprit, qui fait que j'aimerais juste revenir un peu sur ce que disait un auteur chrétien qui parlait du principe de position. Et quand il parle de notre position, il veut parler de notre état spirituel devant Dieu. Le chrétien qui arrive à avoir sa position dans le Seigneur Jésus peut faire l'expérience bénéfique de tout ce qui est en Jésus-Christ. Et son état quotidien va être dérivé de cette position spirituelle éternelle. Donc il y a d'un côté la position, et puis de l'autre côté ce qu'il appelle la condition. La condition, c'est un peu ce qu'on vit, ce dont on fait l'expérience de façon pratique. Notre position, dès qu'on vient à Christ, elle est immuable, nous sommes en lui. Mais notre condition, la façon dont on vit cette vérité, elle évolue. Et il est important qu'elle évolue vers une plus grande appréhension, vers une plus grande conviction, vers une plus grande influence de cette position éternelle dans notre vie. Si nous nous concentrons sur ce qu'on vit au jour le jour, on ne va pas vivre par la foi, mais par les sentiments, par les apparences. On va devenir de plus en plus conscient de nous-mêmes, de nos défauts, de nos échecs. Alors qu'en fait, l'Esprit Saint veut que nous prêtions attention au Seigneur Jésus-Christ. Il est notre position, nous sommes en lui. Et si nous vivons de cette force, de cette façon, alors nous allons avoir une croissance. Et cette croissance, elle va se manifester de plus en plus dans notre condition. Paul dira dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et si le croyant ne connaît pas cette position en Jésus et il ne sait pas demeurer en lui, alors il va y avoir ce combat que Paul décrivait si bien dans le chapitre 7. Et bien souvent, le croyant il va être davantage conscient de sa condition que de sa position. Pour porter du fruit, pour grandir, notre foi, elle doit être ancrée dans ce que Jésus-Christ a accompli. Il ne faut surtout pas fonder notre foi sur ce que nous ressentons, sur nos sentiments. C'est important. Il continue en disant une foi biblique. Il s'appelle d'ailleurs, je peux vous donner son nom, il s'appelle Miles, comme des milliers des kilomètres, mais des miles, Stanford, comme l'université, Miles Stanford. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le principe de position ». Et il dit, chaque chrétien a été positionné pour toujours dans le Christ ressuscité par la nouvelle naissance. Mais seul le croyant qui le sait va croître. C'est la foi dans les faits de notre position qui nous amène le bénéfice quotidien de la croissance dans notre condition. Si le croyant n'est pas bien au clair sur ces vérités annoncées dans la parole, il ne va pas pouvoir développer une foi nécessaire à la croissance et au service. Il ne va rechercher ses ressources qu'en lui-même. Et ça, c'est tragique lorsque les chrétiens essayent de vivre la vie chrétienne par leur propre force, par leur propre nature, notre vieille nature pécheresse. C'est là qu'on va prendre des résolutions, en ces jours qui sont là avec nous, pour changer les choses. Mais si on se base là-dessus, si on est focalisé sur notre condition, on va aller nulle part. Nous prenons notre position non pas en essayant d'y entrer par nos efforts, mais en réalisant que nous y sommes déjà. Et nous y sommes parce que Jésus-Christ nous y a placés par son œuvre à la croix. Nous sommes dans cette position ressuscitée depuis notre nouvelle naissance. Au fur et à mesure que nous réalisons cette vérité et que nous nous établissons dans notre état en lui, alors nous faisons l'expérience des bénéfices de notre vie cachée avec Christ en Dieu. Et il dit une chose très importante, la foi en notre position va entraîner une croissance dans notre condition. Autrement dit, si nous comprenons que nous sommes vraiment en Christ, si nous nous laissons imprégner de cette vérité fondamentale qui n'est pas une illusion mais une réalité spirituelle, alors ça va entraîner une croissance dans notre condition, dans la façon dont nous sentons les choses, dont nous vivons notre foi chrétienne. Et il dit, il est important de réaliser que vous êtes toujours en Jésus-Christ, peu importe jour après jour, moment par moment, votre condition, vos sentiments, vos expériences, sachez bien que vous êtes en lui. Un petit rappel, on a déjà parlé de cela, mais c'est essentiel de bien le comprendre. Et la bonne résolution à prendre, c'est de croire davantage à votre position qu'à votre condition, qu'à votre façon, parce que c'est de cette conviction que vous êtes en Christ que votre vie chrétienne va être transformée, va porter du fruit, va vous satisfaire, plutôt que de continuer à vous centrer sur « j'y arrive pas, cette année je vais lire davantage ma Bible, je vais aller suivre des études bibliques plus régulièrement. » Non, réalisez que vous êtes en Christ. Nous avons vu que nous avions donc une nouvelle adresse, nous sommes en Christ. Nous avons un nouvel état d'esprit, c'est ce que D'Antonio a parlé. Vous savez quoi, on va relire à partir du chapitre 8, à partir du verset 1, on va s'arrêter là où on va vraiment commenter aujourd'hui. Et levons-nous pour lire ensemble. Verset 8, page 7, 12, 1274 dans la Bible, second 21. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, c'est l'expression pour dire la vieille nature, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Et le passage qu'on va regarder. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans ces quatre derniers versets, Paul nous donne quatre preuves que nous sommes enfants de Dieu. Quatre marques distinctes des enfants de Dieu. C'est important de bien les saisir, de bien les connaître, parce que l'ennemi de nos âmes, Satan, par moment va nous demander « Est-ce que je suis vraiment chrétien ?» Parce que, comme disait Paul au chapitre 7, « Je ne fais pas ce que je veux, le bien que je veux, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le commets, je le fais, j'en peux plus, peut-être que, en fait, il n'y a pas de vie chrétienne possible, peut-être que moi-même, je ne suis pas chrétien. » Et donc, ces quatre preuves, c'est d'abord l'obéissance à l'Esprit. Verset 14, il nous dit « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Question de savoir, est-ce que je suis conduit par l'Esprit de Dieu ? Notez bien qu'il ne nous dit pas « Est-ce que je suis forcé, poussé, bousculé ?» mais conduit. Et l'idée, c'est quelqu'un qui vous tient la main et qui vous emmène quelque part. Il nous conduit par des instructions, par la direction. Il a inspiré la parole que nous lisons dimanche après dimanche, que nous pouvons, et j'espère que nous le faisons régulièrement, c'est de la lire quotidiennement, ou même plus souvent. ces instructions qu'il a données, il les a données par l'inspiration, l'Esprit Saint les a données aux prophètes et aux apôtres qui ont écrit la parole, qui nous est parvenue, ça c'est déjà un miracle. C'est un grand miracle qu'elle nous soit disponible. Et donc il nous dirige par ses instructions, il nous dit ce qu'il faut faire, il nous dit ce qu'il ne faut pas faire, il nous parle. Et souvent les gens me disent, mais tu as déjà entendu la voix de Dieu de façon audible? Et je dis, pas très. Une ou deux fois, j'ai vraiment eu l'impression que Dieu m'interpellait. Mais c'est pas la règle. La règle, et je dis que Dieu me parle lorsque, quand je lis un passage de la Bible, je lis toujours avec un stylo à la main ou un marqueur, et j'ai envie de souligner. Si le texte, on fait ça pour un texte païen, on pourrait dire, non inspiré, on a envie de souligner une idée intéressante ou une idée pertinente, quelque chose qui nous marque. Et je pourrais dire que si le texte vous parle et que vous le soulignez, c'est pas par hasard, c'est Dieu qui vous parle. Donc la plupart du temps, c'est par la parole, la lecture de sa parole, mais ça peut être aussi par une impression, même par des rêves. Où vous vous réveillez, vous avez un verset en tête. Je vous ai déjà partagé quelques rêves. Une fois, j'avais rêvé. C'était pas un très bon rêve. Je m'étais vraiment senti mal à l'aise. Où je m'endormais en vous prêchant. C'est brutal, ça. Ah. Et je me réveillais en sursaut et je voyais que vous étiez là à attendre que je continue. Et j'ai pris cette chose assez sérieusement en me disant peut-être que je m'endors dans un ronron, dans un train-train. Donc je pense que le Seigneur m'a parlé par ce rêve. Une autre fois, c'était lorsque j'étais fatigué, je disais j'en peux plus, on n'arrête pas de travailler dans le ministère, on ne prend pas de temps libre, etc. Les gens ne sont pas conscients de ce qu'on fait pour pouvoir les servir, ils sont plutôt exigeants, ils sont ingrats. J'étais dans une mauvaise phase et le lendemain matin, en me réveillant, j'ai eu cette portion du verset qui me disait « Tu ne t'appartiens pas ». Autrement dit, arrête de te plaindre. Si tu es mon serviteur, si tu es chrétien, tous nous sommes les serviteurs de Dieu, il n'y a pas de place pour se plaindre. Tu dois remercier Dieu que tu as les facultés d'être à son service. Mais de temps en temps, comme ça, Dieu nous parle. Et donc, le Saint-Esprit nous conduit par des directions, par des instructions. Et puis, la façon dont je disais, c'est qu'il nous tend la main, il nous tient la main, il nous prend notre main, il ne nous force pas. Et si on le laisse faire, il va nous emmener dans une direction ou dans une autre. Moi, c'est quand je travaillais aux États-Unis dans l'informatique, et puis il a commencé à me mettre l'idée que peut-être je devais rentrer en France et essayer de faire quelque chose pour l'Évangile en France. Il me prenait la main, il ne m'a pas botté les fesses pour que je le fasse. J'ai traîné, mais il y avait cette conviction, cet entraînement. Il me disait, viens, n'aie pas peur. Il a aussi son autorité pour nous diriger, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui a présidé, qui a participé à la création de l'univers. L'univers, c'est, entre parenthèses, c'est une chose absolument fantastique. J'ai mis une petite vidéo sur le site de Calvary Chapel Nice, Facebook. Et en fait, il y a les recherches, les dernières recherches ont permis, il y a quelques années, de dresser une carte de l'univers qui montre des millions de galaxies. Les galaxies, c'est notre Voie lactée, et nous sommes sur une toute petite pierre qui tourne autour d'une des étoiles qui compose cette galaxie de la Voie lactée. Mais ça, c'est rien du tout. Il y a sur cette vidéo que j'ai mis en ligne, on voit la représentation de milliards de galaxies. Et on se sent vraiment tout petit, et on se dit en fait que Dieu est venu nous parler. Et c'est l'Esprit Saint qui a présidé à la création de cet univers infini, qui a présidé, qui a participé avec le Père et le Fils. Et ça nous dit que l'Esprit Saint, quand il parle, il vaut mieux l'écouter. Amen. Et puis il nous invite à coopérer avec lui. Il nous conduit en disant, venez faire ceci avec moi. Et où nous conduit-il? D'abord, il nous conduit à la repentance. Hein, c'est le premier contact qu'on a avec le Saint-Esprit. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et si on l'écoute, on vient à Christ. Il nous invite à penser très peu sur nous-mêmes, de nous-mêmes, dans le sens où il ne veut pas qu'on soit focalisé par nos sentiments, nos impressions, nos petits bobos, la température de notre corps, la fièvre, tous les soucis qu'on a généralement. Il veut qu'on concentre nos pensées sur Jésus-Christ. Il veut nous conduire vers la vérité, il nous conduit vers l'amour, c'est lui qui déverse en nos cœurs l'amour sacrificiel, où on aime les autres, même s'ils ne reconnaissent pas ce qu'on fait pour eux, même s'ils ne font pas la réciproque de nous aimer. Il nous conduit surtout vers la sainteté et vers l'utilité dans le royaume. Pour pouvoir être utile à Dieu, il faut être des vaisseaux, des instruments dignes d'être utilisés. Donc tout ça, c'est l'Esprit qui nous conduit. Et donc, si on sait qu'on obéit à l'Esprit, on sait qu'on est fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jésus disait, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Et puis, un passage très important dans Jean 16, 13, « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, c'est avant la crucifixion de Jésus et sa résurrection, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'Esprit Saint, il n'aime pas parler de lui-même. Et ça doit nous mettre en garde. Il y a certains mouvements où tout est focalisé sur l'Esprit Saint. Les messages tous les dimanches, c'est sur l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit. Et c'est répété, et ces choses sont des vérités, c'est bon, mais l'Esprit Saint, ça, il veut mettre le projecteur sur Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Donc vous pouvez, c'est une façon de jauger de l'orthodoxie, j'allais dire, c'est pas le bon mot, de la validité des enseignements que vous recevez. Est-ce qu'on parle, c'est important de pas oublier l'Esprit Saint, ce qui peut être l'autre extrême, mais ne parler que de l'Esprit Saint et d'oublier Jésus et le Père, c'est aussi dangereux. L'Esprit nous conduit à Christ pour nous révéler sa beauté, ses richesses, et on peut lui parler. Il nous aide à résister aux désirs de la chair, de notre vieille nature, de notre nature humaine, nature propre. Et puis un autre signe, c'est le fait qu'il va nous donner un sentiment filial. Enfant de Dieu, on va avoir cette conviction intime. Et il est appelé l'esprit d'adoption. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Comme je disais, on peut avoir peur de l'endroit ou de ce que l'Esprit va nous demander de faire, mais on n'a pas à avoir de la crainte. Pourquoi ? Parce que on a reçu l'adoption. Certains se disent, si j'accepte d'être missionnaire, sans doute Dieu va m'envoyer en Amazonie où il y a des serpents sous toutes les branches, ou au Sahara où il y a des scorpions qui, rien que de les voir, ça vous fait mourir. On a peur de donner la main à l'Esprit-Saint et à le suivre, alors qu'en fait, il veut notre bien. L'amour parfait bannit la crainte. Et nous pouvons l'appeler Abba Père. Nous avons été adoptés. L'adoption, ça résulte d'un choix. Dans une famille naturelle, il y a des enfants qui naissent entre le papa de l'union du papa et de la maman. Et puis certains ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc ils décident d'adopter un enfant et ils vont choisir un enfant. Ou même ceux qui ont déjà des enfants naturels peuvent choisir d'adopter. Et c'est très important de constater que, en fait, un fils adopté, à l'époque romaine, on pouvait renier un fils naturel. On pouvait le déposséder de ses droits, on pouvait même le vendre comme esclave. Il y avait un mot, le patria potestas, l'autorité paternelle du père de famille sur ses enfants était terrible. C'était le droit absolu pour le père romain. Il pouvait en disposer comme bon lui semblait. Par contre, un fils qu'il adoptait, et ça, il y avait tout un prince, toute une procédure à suivre à la lettre. Une fois qu'il était adopté, il ne pouvait en aucun cas être vendu. Il ne pouvait perdre aucun des droits qu'il avait acquis par l'adoption. Et donc, on pouvait dire, en fait, sa position était même plus solide que celle de l'enfant du sang. C'est curieux, ça, mais lorsque Paul et le Nouveau Testament parlent de l'adoption, c'est quelque chose de très fort, c'est même plus fort que la filiation naturelle. Et donc, c'était quelque chose d'encourageant, et l'idée d'appeler, c'était quelque chose de nouveau lorsque on parlait de Dieu le Père en l'appelant Abba, Abba Père. C'était un terme d'intimité, c'était le mot, aujourd'hui en français c'est le mot papa, papa chéri, et vous avez peut-être été... Suivant vos traditions liturgiques, si vous avez été élevé, moi j'ai grandi dans la foi catholique jusqu'à un certain âge, avant de tout rejeter, pour être appelé finalement par Dieu. Mais on parle du Père, notre Père qui est aux cieux. Et puis vous avez d'autres personnes qui vont être dans des réunions de prière avec vous et qui vont commencer à dire « Papa ». Et au début, quand on n'a pas l'habitude, ça peut choquer. Ou ça peut nous mettre... Oh, c'est bizarre d'appeler notre Père Papa. Mais c'est ce qu'il dit lorsqu'il dit « Nous crions Abba, Père ». C'est ce terme araméen qui était le terme utilisé et qui devait scandaliser les gens qui entendaient Jésus prier cette prière. Et le Notre Père, on pense que c'était, il disait Abba, Abba Père, Papa. Et donc il y a, au lieu d'être des esclaves de la loi du péché et de la mort, maintenant on est les enfants chéris du Père, on est des enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez le Père avec ces yeux-là? Ou est-ce que vous avez encore peur qu'il vous... Est-ce que c'est un père fouettard qui est prêt à vous attraper à la moindre incartade? À la moindre erreur, c'est la colère. Il nous dit ensuite qu'une autre raison de savoir qu'on est vraiment les enfants de Dieu, c'est verset 16, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le fait qu'on obéisse à l'Esprit, le sentiment filial où on appelle Dieu Abba parce qu'on a été adopté, mais là c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez que vous êtes enfants de Dieu. Parce que l'Esprit Saint parle à votre esprit. L'Esprit, on en a parlé la semaine dernière, Tony en a parlé la semaine dernière, c'est la partie de notre être qui est capable d'être en relation avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu. L'homme, 1 Thessaloniciens 5, 17, parle d'un homme en trois parties, quelque part, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est le corps physique, on comprend. L'âme, c'est le domaine de la volonté, le domaine des émotions. Et puis l'esprit, c'est cette partie qui doit être régénérée en nous. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut, qui nous permet d'être en relation avec l'Esprit de Dieu. La plupart des gens que nous côtoyons, qui ne sont pas chrétiens, ils ont les deux premières parties, ils ont le corps, ils ont l'âme, l'émotion, la volonté, mais ils sont morts vivants en ce sens qu'ils n'ont pas l'esprit. Et c'est pour ça qu'il faut que nous naissions de nouveau, nous naissions d'en haut, pour avoir cet Esprit Saint qui nous permet de communiquer avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous avons cette relation avec Dieu, nous savons par l'Esprit de Dieu qui nous convainc intimement que nous sommes enfants de Dieu. Alors c'est vrai que l'ennemi va essayer d'attaquer ça, mais si vous revenez aux fondamentaux, vous dites non, je sais que je suis enfant de Dieu. J'aime bien cette citation d'un grand commentateur francophone de Suisse, Godet, à la fin du 19e siècle, qui disait « Nous sommes fils de Dieu non pas seulement parce que notre cœur est filialement disposé envers Dieu et nous inspire ce cri d'amour, papa, mon père, mais ceci est plus sublime encore, parce que du cœur de Dieu lui-même descend par la voix du Saint-Esprit cette réponse, mon enfant. » Dieu vous dit, mon enfant. Lorsque vous venez à lui dans la prière pour lui remettre vos soucis, vos joies, il vous dit, mon enfant. Et puis une autre façon de savoir que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, c'est le verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. » Alors il y a ce verset, il est rempli de bonnes nouvelles. Nous sommes enfants de Dieu, donc nous sommes au même titre qu'un enfant naturel, et dans notre cas, dans l'enfance que représente Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu, qui s'est incarné sur la terre. Nous avons autant droit que lui à l'héritage, à toute la richesse de Dieu. C'est absolument faramineux, fantastique, ça dépasse l'imagination, l'entendement. En anglais, il y a le bon mot de mind-boggling. Ça nous fait péter la tête, quoi. On arrive mal, mais nous avons droit à toutes les richesses de Dieu. Paul le dira dans Éphésiens, nous avons en Christ, nous avons toutes les richesses et les richesses spirituelles, mais aussi accès à tous les biens matériels qu'il nous donne selon son bon vouloir et selon sa grande générosité. J'ai été frappé par une photo sur Facebook d'un ami pasteur qui me disait... Alors, il y avait un amas de petits post-it sur une table de toutes les couleurs. Et sur ces post-it, il avait inscrit... Chacun des membres de la famille avait inscrit des bénédictions qui avaient été accordées par Jésus, par Dieu. Et il les mettait dans un grand bocal. Et à la fin de l'année, il sortait le bocal, il regardait et se rappelait tous les bienfaits, tous les joies, tous les bonheurs, toutes les provisions que Dieu avait assurées, avait données dans sa grande générosité. Et je ne l'ai jamais fait, mais ça m'a vraiment donné le désir de faire cela pour voir l'immense générosité de Dieu, l'immense bénédiction, l'immense quantité de bénédictions qu'il déverse sur nous. Alors, on va pas prendre de résolution, mais je vous invite à envisager de le faire. On peut le faire intellectuellement, mais on oublie. Moi, j'oublie tout. J'oublie les instructions que Nancy me donne le matin pour l'après-midi. Donc, je suis sûr que je ne suis pas le seul, qu'il est bon de se rappeler tout ça. Mais, ça c'est la bonne nouvelle, nous sommes héritiers, mais il y a une condition, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Si nous suivons Dieu, si nous suivons Jésus, il nous promet que nous allons être persécutés, que nous allons avoir des difficultés, nous allons avoir des épreuves. Alors il ne s'agit pas de chercher la persécution en faisant n'importe quoi, mais de ne pas être surpris que lorsqu'on cherche à vivre pour Dieu, on va être mal compris par nos proches. Ma mère, lorsque je lui faisais part de mon désir de revenir en France, elle était contente que je revienne en France, mais elle était triste du fait que j'allais abandonner une bonne situation dans l'informatique aux États-Unis. Elle ne comprenait pas et elle était persuadée que j'étais tombé dans une secte. Vive cette secte. C'est une bonne secte. Savoir que on va être mal compris, on va être même des gens vont s'opposer à nous. Et puis, alors on l'a pas lu, mais Paul nous rassure. C'est une façon de savoir que nous sommes enfants de Dieu, c'est qu'on va avoir des souffrances en communion avec Jésus-Christ. Et on peut se demander si tout va bien sans jamais de problème dans notre vie, peut-être qu'on ne parle jamais de lui autour de nous, parce qu'en général ça provoque des réactions, ça peut aller jusqu'à provoquer la persécution. Il nous rassure en disant tout de suite au verset 18, « Mais j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui nous sera révélée pour nous. J'estime que les souffrances du temps, moment présent, ne sont même pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Donc ces éléments sont importants. de savoir qu'il y a le fait qu'on obéisse à l'Esprit Saint, le fait qu'on ait ce sentiment d'être vraiment enfant de Dieu, le sentiment qu'on a, on a le Saint-Esprit qui nous dit « Oui, tu es enfant de Dieu ». Et puis, un des tests pratiques, c'est de voir si on souffre avec lui, avec Christ, alors à ce moment-là, on peut être rassuré qu'on est vraiment des enfants de Dieu. Mais je crois que le plus beau témoignage, c'est l'Esprit Saint lui-même qui parle à notre esprit. Et encore une fois, savoir qu'on a cette position, ça va nous aider à vivre notre condition. Ces réalités, cette réalité spirituelle, que nous avons une relation d'enfant de Dieu, ça nous permet de vivre selon l'Esprit, d'être dirigé par lui et de nous éloigner de ce conflit permanent où on se dit « mais j'y arrive pas, je veux faire le bien, j'y arrive pas, qui va me délivrer de cela ?» L'Esprit Saint est celui qui nous aide à vivre. Et c'est tout le chapitre 8 justement, c'est pour ça que c'est un merveilleux chapitre, c'est parce qu'il nous donne les clés pour avoir une vie victorieuse en Jésus-Christ. Et on va continuer à grimper jusqu'au sommet de l'Everest du chapitre 8.